On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis ravie de vous accueillir comme chaque soir sur France Bleu. C'est votre émission de confidence. Pendant 2 heures, on va tout se dire comme on fait chaque soir. Et ce soir, nous allons aborder un sujet toujours d'actualité, souvent tabou. La rue, avec celles et ceux qui se retrouvent un jour à dormir dans la rue, à faire la manche pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. On va parler de comment ça arrive. Et on sait bien que souvent, ce sont les accidents de la vie. On va parler du quotidien de la rue, de comment on se débrouille, de la solidarité ou de la peur, du regard des autres, de leur réflexion et comment on s'en sort aussi parce que heureusement parfois il y a aussi des gens qui vous tendent la main. 0810 055 056 c'est le numéro pour nous rejoindre jusqu'à 22h avec ce soir exceptionnellement pas un grand témoin mais deux grands témoins qui co-signent le livre Je tape la manche aux éditions du Livre de Poche. Il s'agit de Jean-Marie Rougol et de Jean-Louis Debré. On va commencer par vous Jean-Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Là votre histoire est intimement liée, c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Le livre est né de votre rencontre avec Jean-Louis Debré, Je tape la manche. C'est votre histoire, mais c'est Jean-Louis Debré qui vous a poussé à l'écrire, cette histoire.
Oui, parce que j'ai pas pensé sur le coup de faire, j'ai pas commencé tout de suite. Ça a mis à peu près 2 ans de préparation. J'ai mis au moins 1 an avant de commencer à écrire.
Ouais, vraiment. Jean-Louis Debré, à l'époque, vous étiez président du Conseil constitutionnel. Vous vous souvenez de votre premier échange avec Jean-Marie Rougol?
Je me souviens de mes premières rencontres. Parce que j'écris le soir des livres, des romans, et j'aime bien vers 11h aller m'acheter un petit cigare, c'est ma récréation. Et un jour, j'arrive devant le drugstore, j'avais déjà repéré. J'avais repéré parce que son comportement n'était pas le comportement des autres. Pas d'agressivité. Bonjour, bonsoir, même si vous ne lui donniez pas une pièce, il n'y avait aucune acrimonie.
Un SDF et un homme politique, c'est pas commun quand même. Il y a des gens qui vous ont fait des réflexions l'un comme l'autre,
oui,
d'ailleurs.
Mais, donc j'arrive ce soir-là et il me dit, je vais garder votre bicyclette. Je lui donne mes clés et puis en revenant, je bavarde un peu avec lui et quelqu'un passe... près de nous, me reconnaît, et dit à la jeune femme qui l'accompagnait, regarde, c'est Debré qui parle à SDF. Le ton sur lequel c'était dit m'a profondément choqué. Et je me suis dit, il y a deux façons de lui répliquer à ce monsieur. Soit de l'engueuler, mais c'est pas bien de perdre ses nerfs, soit de lui montrer que ce SDF avait probablement des choses à dire plus intéressantes que lui n'en avait à dire. Et donc, j'ai dit à Jean-Marie, vous devriez écrire votre itinéraire. Il m'a envoyé balader. Je ne sais pas écrire, je fais plein de fautes, je ne suis pas allé à l'école.
C'est peut-être pas facile non plus d'aller rechercher tout ça au fond de soi.
Non, c'est sûrement pas facile, mais c'était intéressant. En plus, pour moi, ça me permettait de découvrir un univers. Et puis, chaque fois que je venais, il me disait « ça avance, ça avance ». J'y croyais pas un mot. Je pense très bien, moi je lui propose, je lui en parle à chaque fois. Et puis un jour, je lui avais donné mon numéro de téléphone, il a appelé en disant « j'ai commencé ». Et donc je me suis précipité, et c'était très important pour moi, que ça, c'est parce que vous avez dit co-écrit. Non, c'est son livre, c'est pas mon livre.
Co-signé. Voilà.
Pardon. Et donc, il était très important qu'il s'implique dans ce chemin de ses souvenirs. On pouvait faire comme il a déjà existé, questions-réponses, mais ça ne m'intéressait pas. Mmh. C'est un livre qui devait venir du cœur, qui, pour moi, devait expliquer pourquoi il en est arrivé là. Il n'y a pas de fatalité. Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Et il avait, depuis toujours, rendez-vous avec la pauvreté, la misère et la rue.
On parlera de tout ça aussi, hein, Jean-Marie Rougol, de votre histoire, de comment ça a commencé. Juste avant d'accueillir les premiers témoignages des auditeurs, ça a été facile d'aller les chercher, ces souvenirs, de mettre sur le papier, sur les cahiers, parce que c'était sur des cahiers que vous avez écrits.
Au départ, non, très dur, surtout en commençant par l'enfance. Parce que moi, j'ai pas eu de famille, j'ai été placé des nourrices et j'ai passé une très mauvaise enfance.
Ouais.
Et ça a été très dur de repenser, mais qui marque toujours à vie.
Hein. Mmh. La rue, on va en parler ce soir avec vous, Jean-Marie Rogol, qui êtes notre grand témoin. Et je sais que c'est pas forcément évident d'appeler, c'est pas forcément évident de revenir en arrière sur cette histoire-là, mais on va le faire ensemble comme on le fait chaque soir. Et on vous attend sur France Bleu jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Se retrouver à la rue, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il serait, hein, c'est des chiffres, c'est pas non plus une science. Hein. 141 500 sans domicile fixe en France, d'après le rapport de la Fondation Abbé Pierre, à la rue, dans un hôtel pour quelques jours, sous un abri de fortune ou en centre d'hébergement. Et surtout, on apprend que ce nombre a doublé en 10 ans. C'est votre histoire à vous aussi, elle a duré plus ou moins longtemps. Elle a laissé des traces, mais aussi des amitiés très fortes. Venez nous raconter votre quotidien dans la rue, les débuts, les coups durs, les doutes, la peur aussi, et comment vous vous en êtes sortis aujourd'hui. 0810 055 056, c'est aussi l'histoire de Jean-Marie Rougol, qui est notre grand témoin ce soir. Il a écrit « Je tape la manche » et il est avec Jean-Louis Debré, notre grand témoin sur France Bleu. On va démarrer cette émission avec Brigitte qui nous appelle du Gard. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir à tous.
Vous avez connu ça, vous aussi, vous avez dormi.
Je suis toujours.
Vous êtes toujours dans votre camion ?
Ça fait 4 ans, oui. Ça fait 4 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe le...
Eh bien voilà, j'ai voulu prendre ma retraite à l'âge voulu. Et j'ai une sœur jumelle. Il y a eu une erreur de numéro à ma naissance, et je n'existe pas pour l'État français, alors que j'ai travaillé pendant plus de 40 ans. Je suis en procédure, j'ai même écrit au président, j'ai écrit à tout le monde, et le problème, c'est que personne, vous voyez, j'attends même une réponse du représentant de défense des droits. Il devait venir le 9 janvier, il n'a pas pu, ni téléphone, ni bout de papier, rien. Je n'existe pas. En attendant, ben, je vis dans un camion, c'est grâce à deux personnes très âgées, qui m'ont laissé la possibilité d'avoir de l'eau et un peu d'électricité dans leur propriété, moyennant que je leur donne un coup de main. Mais pour le moment, je vis avec 194,28 €, j'y tiens les 28 centimes, qui ne seront ni remboursés. C'est en attendant que mon histoire et mon procès, puisque je suis en procès pour qu'on me donne une identité, finissent. Alors,
Brigitte, comment ça se fait qu'on l'a découvert qu'une fois que vous étiez à la retraite ? Comment vous avez fait avant pour tout ce qui était administratif ?
Parce que j'avais un numéro. Il faut savoir que quand vous naissez, il faut le dire à tout le monde, vos numéros vont à l'INSEE. Et vous avez deux registres, un pour la sécurité sociale et un pour la retraite. Mmh. Quand vous mourrez en cours de parcours, on va le dire donc au deuxième, c'est-à-dire à la caisse de retraite. Sauf que, à ma naissance, il y a eu des erreurs, effectivement, sur mes extraits de naissance. Il y a des ratures. Mais celui de ma sœur jumelle a été authentifié, pas moi. Donc, quand j'ai travaillé avec cet extrait de naissance qui est toujours valable pour moi. Et j'existe avec ce numéro. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mmh,
mais c'est aujourd'hui que ça...
Numéro 5.
C'est au moment de la retraite que ça...
Pas. Pour eux, non. Et comme j'ai travaillé pour l'État, l'État, c'est le 05. Et pas le 04. Et c'est juste un chiffre. Mais je connais plein de personnes âgées dans le Gard qui ont été obligées, comme moi, d'aller chez leurs enfants, de faire des dettes. Je me suis endettée au départ, puis j'ai dit non, pour pouvoir vivre un peu décemment dans mon camion. Et maintenant, je vis au jour le jour. Quand il gèle, eh bien, il gèle. Quand j'ai pas d'eau, ben, j'ai pas d'eau. Mais je suis digne. Je vis debout. Et je peux dire que même si j'ai fait appel au président, à tout le monde, pour qu'on puisse me donner mon numéro et ma date de naissance et que je puisse avoir ma retraite, en attendant, je tends plus la main. Je ne vais même pas dans ces centres pour hébergement parce que je ne peux pas, je n'y arrive pas. Parce que c'est pas, il y a d'autres gens beaucoup plus infortunés que moi. Dans mon camion, j'arrive à vivre.
Jean-Marie Rougol, quand vous entendez Brigitte qui dit « je reste digne, je reste debout », c'est des mots très forts. Malgré la situation, on sent bien qu'il y a cette envie de vouloir rester debout, de pas craquer.
Oui, oui. Tout le temps, c'est comme moi aussi, pareil, ou des autres amis qui étaient dans la rue. Ben, à un moment, c'est vrai qu'on a des coups de blues, mais on essaye de rester fort.
Jean-Louis Debré, quand vous entendez Brigitte,
l'histoire... Ce que je ne comprends pas très bien, c'est que Brigitte a travaillé pendant 10-20 ans. Elle a cotisé à la Sécurité sociale. Donc, elle a la fiche de paye de son employeur, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de Sécurité sociale. Ça, c'est la première question que je pose. Deuxième question, elle n'a jamais, depuis 30 ans, demandé une rectification de l'état civil ?
Alors, je vais vous répondre. Déjà, il y a 20 ans en arrière, j'ai vu que mon numéro avait changé du jour au lendemain. J'ai dit à la sécurité sociale, c'est pas mon numéro. Ah, on m'a dit, mais non, vous inquiétez pas, si c'est votre numéro. J'ai dit, non, mon extrait de naissance, c'est pas ça. Alors, quand j'ai passé au tribunal des prud'hommes, parce que ça se date du 28 septembre, c'est pas vieux, hein, pour eux, ils se basent sur une date de départ de retraite, mais le numéro, ils veulent rien entendre en disant c'est pas de leur ressort. Donc chacun se renvoie la balle. Parce qu'effectivement, moi je leur dis, mais on peut pas prendre une retraite avec un numéro qui ne m'appartient pas, parce que c'est pas mon identité. Moi ce que je réclame, c'est mon identité. Et c'est celle-là que je veux, et pas celle des autres. Et moi j'ai travaillé avec un numéro. J'ai fait des mariages, enfin un mariage avec un numéro.
Alors Brigitte, on va pas rentrer là-dans l'aspect juridique, parce que c'est pas non plus le but de l'émission. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est votre quotidien. Comment ça va aujourd'hui, Brigitte? Comment vous faites?
Aujourd'hui, j'ai envie de pleurer parce que mon camion tombe en panne là en ce moment. Eh ben, il faut que j'y arrive. Donc, je donne des petits coups de main à droite à gauche qui me permet de faire 4 sous parce qu'on vit pas sans rien. Voilà. Eh bien. Soit je vais couper du bois pour quelqu'un, je fais des heures de gardiennage, je fais ce que je peux pour avoir 4 sous, mais je me débrouille.
Est-ce que vous avez du monde autour de vous aussi, Brigitte?
Oui, beaucoup, beaucoup. Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de gens et c'est là qu'on voit vraiment les vrais amis. Vous inquiétez pas. Sur ce côté-là, je suis très riche. Et je suis plus riche que tous ceux qui ont des milliards. Parce que j'ai un bout de pain, parce que j'ai un toit qui est mon camion, j'ai de l'eau. J'ai 4 sous dans ma poche, je fais partie des milliards.
L'amitié, les copains, la solidarité, Jean-Marie Rougol, vous en parlez beaucoup de vos copains dans le livre, c'est important.
Oui, bah surtout moi j'ai un super copain, mon ami Rassa, on était ensemble samedi, il est venu dormir à la maison, tout. Ça va, il a réussi à avoir une petite chambre aussi depuis 3-4 mois. Il a réussi à s'en sortir.
C'est-à-dire que quand on est dans la difficulté, quand on est dans la rue, être à plusieurs, ça aide aussi?
Ça dépend des personnes, parce qu'il y en a, il faut se méfier, mais il y a des très bons amis, et là il y a vraiment une amitié, une solidarité.
Brigitte, merci de nous avoir appelés. On prendra de vos nouvelles d'ici quelques temps. On vous lâche pas, Brigitte, on veut savoir ce que ça donne, cette histoire, et on vous rappellera pour notre émission « Que sont-ils devenus ?». On parle ce soir de la rue, se retrouver à la rue, ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça vous est peut-être arrivé, vous aussi. Venez nous raconter votre histoire, comment ça a commencé, le quotidien, la réinsertion, ensuite 0810 055 056, on vous attend jusqu'à 22h sur France Bleu.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
La précarité arrive plus vite qu'on ne le pense, la perte de son boulot, une séparation, les dettes qui s'accumulent, le loyer qu'on ne peut plus payer et pour certains, la descente aux enfers. Parce qu'on a honte d'en parler, parce qu'on ne connaît personne. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous surtout et qui a fait que vous vous êtes retrouvé à la rue? Et votre quotidien, c'était quoi? On parle ce soir du combat de chaque instant pour gagner de l'argent, pour manger, pour rester propre. On parle des bandes de copains, de solidarité, mais parfois aussi de rivalité. 0810 055 056, on attend vos histoires, vous qui avez connu la rue ou qui la connaissez encore aujourd'hui. On se dit tout avec ce soir Jean-Marie Rougol qui a passé plus de 20 ans dans la rue et qui se raconte dans le livre « Je tape la manche avec le coup de main bienveillant » de Jean-Louis Debré. Ils sont nos grands témoins ce soir et on va continuer cette émission avec Nadège qui nous appelle depuis les Vosges. Bonsoir Nadège. Allô Nadège? Nadège, non, on n'a plus Nadège, si? Si, si, a priori oui, mais alors elle est bien en ligne, mais on a du mal à la voir, Nadège. On va retrouver Nadège d'ici quelques instants. Jean-Marie Rougol, on parle des copains, on parle de votre enfance, on parle de votre quotidien, on parle des hôtels aussi qui parfois sont très chers et qui sont pourris, complètement pourris.
C'est les marchands de sommeil qu'on appelle ça. Mais bon, à un moment, quand t'es fatigué, à un moment, t'as envie de te reposer dans un vrai lit. Ces gens-là, ils en profitent parce que la plupart des hôtels, les marchands de sommeil, qu'on appelle ça, ils sont de l'argent sur notre dos.
Ça coûte combien? Ça coûtait combien à l'époque, une nuit à l'hôtel?
Alors, à l'époque, moi, j'ai connu, on allait moins souvent, j'étais plus jeune, ça coûtait 30 francs à l'époque, en francs. Et maintenant, c'est minimum 50 euros.
50 euros la nuit?
50 euros une
nuit. Et il faut payer avant?
Il faut payer avant.
Ouais.
Et il faut rentrer pas trop tard. car il y a un certain nombre d'hôtels où vous ne pouvez pas rentrer après minuit.
Mmh. Ouais. En plus.
Les hôtels, mais aussi les squats.
Alors les squats, vous en parlez à plusieurs reprises dans votre livre. Il y en a un dans lequel ça s'est pas trop mal passé, puis il y en a un autre, le premier, c'est l'apocalypse complètement.
Ah bah oui, parce qu'il y a tous les genres, il y a les voyous, il y a les proxénètes, il y a les drogués, il y a tout. Tout est mélangé dedans, tous les gens, les gens de la rue, les gens, la prostitution, tout dans les squats.
Votre journée, c'était forcément taper la manche, hein, c'est le titre du livre. Il fallait ramener de l'argent pour justement payer l'hôtel, pour manger, pour pouvoir rester debout.
Obligé, il n'y a pas de jour de repos. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien.
C'est des journées très longues.
C'est des journées très longues. Et le pire, c'est quand il pleut. Là, c'est comme je dis, parapluie ouvert, porte-monnaie fermée. Ils doivent connaître, ils savent ça, tous les gens de la rue. Et puis bon, c'est dur parce qu'on est toujours debout. On a des réflexions de certaines personnes. Bon, il y en a des biens, heureusement. Heureusement que ces gens-là nous aident, des habitués. Qui sont assez sympas, ou heureusement qu'on a quand même, par exemple, les restaurants du cœur qui passent. Or, souvent, on tombait sur les mêmes personnes qui nous connaissaient. Ça permettait d'avoir un peu de chaleur.
On va accueillir tout de suite Pascal, qui est dans la Somme. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Pascal, c'est pas forcément évident, à un moment donné, de prendre son téléphone, d'appeler, parce que vous, c'est votre quotidien. Vous êtes sans domicile fixe depuis un an maintenant, un an et demi.
Un an et demi, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on plonge comme ça de l'autre côté?
Ben malheureusement, comme tout le monde, une séparation. Et puis, ben, on se retrouve avec rien, quoi. Et puis, ben, au début, on prend très très mal, quoi. Et puis, ben, on essaie de venir, on reste digne, quoi. Comme il dit le monsieur, on reste digne. Et c'est dur quand même, quoi.
Là, quand vous dites plus rien, c'est-à-dire que vous aviez un logement avec votre compagne, c'est elle qui l'a gardé, c'est ça?
Voilà.
Ouais.
Vous partez avec votre sac d'habits. Et puis, ben voilà, quoi, faut recommencer une vie. Et moi, je suis en invalidité. J'avais fait une demande de logement. Donc, pas assez d'argent, caution, cautionnaire pour un logement, tout ça. Donc, j'ai pas. Et bon, on se retrouve à la rue, quoi.
Vous êtes où, là, aujourd'hui, Pascal? Vous dormez où, le soir?
Ben, j'ai fait une petite cabane.
Une petite cabane?
Ouais. Et j'ai installé un poêle à pétrole. Une chaufferette, mais bon, ça coûte des sous, quoi. Et je suis quelqu'un de digne, je veux pas faire la manche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous jugent, et de haut. Mais le jour que ça leur arrivera, ils verront que c'est pas facile, quoi.
Mais quand vous dites je veux pas faire la manche, comment vous faites aujourd'hui? L'argent, vous le trouvez comment? Vous faites comment, Pascal?
Ben, comme la dame a dit, ben on se débrouille. On fait des petits boulots à droite, à gauche. On essaye de survivre.
Jean-Marie Rigol, des petits boulots, vous en avez fait, vous aussi?
Oui, j'en ai fait aussi. Par exemple, j'ai aidé des gens de bureau pour les colis ou des en restauration, si j'ai fait. Mais bon, c'est précaire. Hein, c'est...
Sur les marchés aussi.
Sur les marchés aussi, mais c'est précaire. C'est que du précaire. C'est pas tout le temps.
Voilà.
Je posais la question à Brigitte et je pense que je vais la poser tous les soirs. Il y a du monde avec vous, Pascal? Il y a du monde autour de vous?
Non. Plus le temps, je suis tout seul tous les soirs, tout le temps, tout seul. Et, ben, vous savez, manger une petite soupe, ou buvez un petit verre, et puis vous allez vous coucher, quoi.
Est-ce que vous avez des associations qui passent?
Non.
Il n'y a pas d'association?
Non. Non, j'ai personne.
Vous êtes où dans la Somme? Vous êtes près d'une grande ville ou vous êtes plus reculé?
Ouais, reculé, je suis en campagne.
C'est plus compliqué en campagne aussi, peut-être, Jean-Marie Rigol.
Ah oui. Ouais. Ah oui. Là, c'est,
On est caché encore plus.
On est caché, personne ne vous voit. Y a pas, c'est pas pareil quand on est dans une ville. Mmh. Puis pour avoir de l'aide en campagne, c'est pas évident.
C'est un choix vraiment que vous avez fait, Pascal, de rester dans la Somme? Ouais.
Oui, parce que bon, j'ai des attaches. Et puis, comment vous dire ça c'est mon plein-pied, quoi. On va dire, pardon.
Votre cabane.
J'ai peur de m'éloigner puis de m'enfoncer.
Mais en même temps, plus vous allez vous rapprocher des villes, plus il y a d'associations, plus il y a de gens qui peuvent vous aider aussi, vous voir déjà, rien que vous voir.
Oui.
Oui, c'est sûr. Mais disons qu'en ville, je pourrais pas faire une cabane, quoi. Moi, la première ville où que je suis, aux alentours, c'est 30 km.
Mais vous êtes en pleine campagne?
En pleine campagne.
Il n'y a pas des fermes autour ?
Oh si, j'ai des fermes, tout ça, c'est là-bas que je bricole un peu, tout ça.
Et vous avez, il y a une mairie qui est pas loin, vous avez demandé...
Ah oui. Bah, ils savent, mais...
Bon, mais est-ce que vous avez demandé à une assistante sociale de se préoccuper de vous ?
Oui, bah, j'ai fait demande de logement, tout ça, hein. Moi je sais pas lire, je sais pas écrire, je suis un peu comme le monsieur au début que vous avez écrit votre livre, là. J'ai une jeunesse pas très facile, tout ça, bon bref, et... Ben voilà quoi, mais pff, avec 600 euros par mois, qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise, ben y a rien, bon ben voilà, c'est tout, on attend, puis c'est tout.
Vous touchez une pension d'invalidité ?
Oui, on espère que demain ça ira mieux.
Et est-ce que, où est-ce qu'il vous l'envoie cette pension d'invalidité ?
Ben si vous préférez, j'ai été obligé de faire une adresse chez quelqu'un, parce que sinon je la touchais plus.
Ça, on n'en parle pas beaucoup ça, Jean-Marie, dans votre livre, l'adresse ? Avoir un domicile, une domiciliation pour les papiers.
On appelle ça des boîtes postales, mais des fois c'est très long, ça peut mettre 3-4 mois. Moi j'avais laissé tomber, parce que c'est 3-4 mois, parce qu'il y a une liste d'attente. Comme il y en a un à la Cadarapé, il y en a dans le 19e, mais c'est très long, beaucoup de gens, pour ça moi je touchais même pas le RSA dans la rue, comme beaucoup de gens de la rue, on ne le touche pas.
C'est-à-dire qu'il y a des aides possibles, mais il y a tellement de démarches à faire que c'est compliqué, que parfois...
Démarches, puis on n'a pas le temps. Nous, faut qu'on... voilà, puis on n'a pas le temps. Et puis on préfère se débrouiller par nous-mêmes.
Et c'est ce qu'on entend bien depuis, voilà. Depuis le début, hein, ça
moi,
revient.
J'ai toujours débrouillé par moi-même. Je touchais pas le RSA. J'étais même pas assuré sécurité sociale.
Pascal, il faut pas vous enfermer, il faut pas rester trop seul, parce que là, on voit bien que vous êtes en train de vous éloigner un petit peu quand même. Hein.
Bah oui, mais bon, après le problème, c'est que j'ai un chien, j'ai un chat, c'est ce qui me reste de ma famille, quoi.
C'est pas un problème, ça, Pascal.
Oui, non, mais beaucoup les animaux sont pas acceptés, tout ça. Et puis, ben eux m'ont accompagné, donc si vous préférez, de les lâcher demain, ça me ferait, c'est comme si que je partais, quoi.
Aujourd'hui, il y a des structures qui accueillent les animaux, quand même.
Par contre, maintenant, si, il y a beaucoup d'associations qui font, maintenant, qui acceptent les animaux. Moi, j'ai un copain qui était dans la rue, qui avait un chien à l'époque, et qu'ils hébergeaient.
Il y a des structures d'hébergement, mais c'est vrai que là, peut-être qu'à 30 km de la première ville, c'est peut-être compliqué.
Je me rapprocherais d'une ville.
Ouais,
pas rester... Déjà, il fait beaucoup plus froid.
À la campagne, oui.
Ouais, à la campagne, beaucoup.
En campagne, je me fais déjà voler, alors en ville, ça va être quoi ? J'aurais plus d'affaires, j'aurais plus rien. Ça aussi, ça fait beaucoup peur.
Oui, mais bon, vous avez personne aux alentours aussi.
Non.
Vous êtes encore plus en danger qu'en ville.
Isolé, là. En ville, il y a peut-être du monde qui peut aussi... qui peut rester avec vous, vous voyez. On le voit bien, souvent, vous êtes plusieurs, hein, Jean-Marie.
Voilà,
vous
puis faut pas oublier, vous pouvez tomber sur des gens... Il y a des gens dans la rue qui sont très sympas, qui vous aideront, hein.
Ouais, bien sûr, mais...
Mais restez isolé, il vous arrive quelque chose, ben vous avez personne pour vous appeler au secours.
Je sais, mais je savais...
Il n'y a pas de passant, il n'y a rien. Vous êtes quoi, dans une forêt ?
Ouais, on va dire ça, oui.
Dans une forêt, ben...
Mais on va dire... Ouais, mais depuis un an et demi, quand vous êtes comme ça, vous habituez.
Oui, mais vous habituez, mais bon, c'est pas question, vous allez vous enfoncer et vous vous en sortirez jamais.
Moi, je pense qu'il faut retourner déjà voir une assistante sociale. Pascal, c'est la première chose à faire. Et puis vous rapprocher des associations et peut-être bouger un petit peu, quitter un petit peu la campagne pour vous rapprocher des villes. Pascal, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite bon courage. Et on passe la soirée avec vous. Et on prendra de vos nouvelles aussi. On vous rappellera dans quelques temps pour prendre de vos nouvelles, savoir où vous en êtes. On se dit tout. Ce soir, ça continue jusqu'à 22h. On parle de la rue, le quotidien de la rue. Comment un jour on se retrouve à la rue comment on fait pour en sortir aussi. 0810 055 056 avec ce soir Jean-Marie Rougol et Jean-Louis Debré qui co-signent Je tape la manche. C'est aux éditions Le Livre de Poche.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Donner une vie, un quotidien, des émotions, un passé, un avenir aussi aux gens de la rue, c'est ce que fait Jean-Marie Rougol dans le livre Je tape la manche et on en parle ce soir dans On se dit tout sur France Bleu avec vous qui, comme Jean-Marie et comme beaucoup d'autres, ont connu la rue, la dèche, plus de toit, pas de boulot, obligé de taper la manche, de faire avec les luttes de territoire. Mais on parle aussi des copains de galère, les squats, les hôtels où il faut payer par avance, les nuits dans le froid. Vous avez connu tout ça. On attend votre histoire, votre témoignage au 0810 0810 055 056. Deux grands témoins ce soir, Jean-Marie Rougol et Jean-Louis Debré, qui signent ensemble Je tape la manche aux éditions du Livre de Poche. Et Nadège, on vous a retrouvé depuis les Vosges. Bonsoir Nadège.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur France Bleu. Vous avez connu ça vous aussi, la rue, Nadège, en 95?
Oui.
Racontez-nous comment ça a commencé.
Eh bien, j'ai le père de mes enfants qui a été incarcéré, donc bah, ça a été la descente aux enfers. J'ai tout perdu, ma maison, mes enfants, tout. Et bah, la seule chose qui me reste à faire, même ma famille, tout le monde m'a tourné le dos, donc bah, j'ai fait la manche pour m'en sortir, pour pouvoir manger. J'ai dormi dans des entrées, dans des endroits improbables, dans des squats, dans des endroits où bah, j'ai eu peur souvent, parce qu'une femme dehors, c'est assez compliqué. On est une proie facile. Et ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est lorsqu'ils ont commencé à faire les journaux pour SDF, que je vendais dans le métro. Et grâce à ça, ça m'a permis après de pouvoir prendre un hôtel à la journée qui était effectivement hors de prix. À l'époque, je payais 200 francs d'hôtel par jour.
200 francs par jour?
Oui, 200 francs par jour. C'est des marchands de sommeil.
Il faut aller les chercher, les 200 francs, hein, tous les jours.
Oui. Mais je commençais à 7h du matin jusqu'à 21h, et voilà, quoi. Pour m'en sortir, j'allais à la soupe, à la distribution de repas à l'époque, Place de la Nation, pour pouvoir manger quand je pouvais pas me payer à manger. Et bah, petit à petit, j'ai remonté la pente. J'ai fait une domiciliation pour pouvoir prétendre au RSA à l'époque, enfin au RMI, parce que c'était encore le RMI.
Vous avez attendu longtemps, comme nous le disait Jean-Marie? C'est long?
Très long.
Oui.
Très très long, et j'avais plus de papiers, j'avais plus rien, on m'avait tout volé, donc il fallait que je refasse tous mes papiers. C'était, enfin, comme j'étais domiciliée là, c'est eux qui touchaient mon RMI et qui me le donnaient, quoi, parce que j'avais plus de compte en banque, j'avais plus rien. Et puis petit à petit, j'ai remonté la pente. J'ai réussi à trouver un appartement, un studio. Où je payais relativement cher, mais c'était mieux que l'hôtel. Et j'ai retrouvé du travail, et je m'en suis sortie, mais j'ai perdu mes enfants, je ne les vois plus depuis, ça a été une rupture totale, quoi.
Vos enfants ont été placés suite à ça, Nadège?
Oui.
Comment ça se fait que vous n'avez pas revu vos enfants, quand vous retrouvez un appartement, que vous retrouvez du travail?
Bah parce que mon ex-belle-famille, on a eu la garde et ils ont tout fait pour m'empêcher de les voir. Ils ont raconté ce qu'ils ont voulu à mes enfants, quoi.
Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui, Nadège?
Mon fils aîné, il a 30 ans et mon deuxième a 27 ans.
Vous savez où ils sont?
Oui, mais j'ai rappelé mon fils aîné, il ne veut plus entendre parler de moi et il m'a dit que t'es plus ma mère. Excusez-moi.
On parle aussi des enfants. Vous avez des enfants, vous, Jean-Marie? On en parle aussi beaucoup, forcément. On y pense quand on est dans la rue. On pense à ce qu'on leur laisse aussi à nos enfants.
Oui, on y pense beaucoup. Et dans la rue, ben, surtout quand tu as plusieurs enfants, ben, tu penses, tu dis, ben, t'es jamais là. On n'est jamais là, ben, parce qu'on est dans la rue. Ben, heureusement, j'avais de la chance qu'ils étaient ben, sur Paris, que je pouvais les voir de temps en temps. Où j'avais ma fille, on se voyait dans un café, voilà, ou des fois à l'hôtel, qui passaient me voir.
Vous avez des copains qui, comme Nadège, ont perdu la garde de leurs enfants et carrément leurs enfants tout court?
Beaucoup. Il y en a beaucoup.
Jean-Louis Debré, vous vouliez témoigner?
Il faut se mettre aussi de la place du côté des enfants. Je me souviens toujours de ce que m'a dit la fille de Jean-Marie. Son angoisse, quand elle était petite, c'est lorsqu'elle rentrait à l'école et qu'on lui demandait la profession de ses parents.
Ouais.
Elle n'osait pas dire qu'il était dans la rue. Alors, elle a commencé par dire « il travaille à l'extérieur », puis « il est dans la restauration ». Et deuxième angoisse qu'elle m'a racontée, c'était dans les écoles, quand il y a un anniversaire, on va passer l'anniversaire du petit copain chez lui, et elle n'y allait pas. Et puis troisièmement, ce qu'elle m'a raconté, parce qu'elle aime beaucoup son père, et son père l'aime beaucoup, c'est qu'elle avait une angoisse, c'est que le père vienne la chercher. Parce qu'elle ne voulait pas le regard des autres. Et le regard des enfants, des autres enfants, sur des enfants de SDF, sont des regards, comme pour tous les enfants, extrêmement durs.
Mmh.
Et il faut se placer. Et puis, votre fils aîné, Jean-Marie, qui est très introverti, ne parlait pas.
Il ne parle pas du tout.
Il ne parle pas du tout. Ça va mieux maintenant ?
Oui.
Parce que ce livre a permis de magnifier le passé et de ne pas présenter le passé comme quelque chose d'honteux ou de misérable. D'autant plus que Jean-Marie est devenu vedette de la télévision et de la radio. Mais c'est très important parce que c'est là, il faut trouver une seconde rupture qui permette d'épuiser ou de sortir du passé pour pouvoir repartir de l'avant.
Et là, Nadège, vous pouvez communiquer aujourd'hui avec vos enfants, leur écrire au moins, pouvoir...
Ils ne veulent plus entendre parler de moi.
Mais poser les choses sur le papier, c'est important aussi parfois, vous savez.
Je l'ai fait, mais en vain. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit en vain, mais j'ai aucune réponse parce que je me suis reconstruite. J'ai un métier, je travaille.
Peut-être qu'un jour, c'est eux qui reviendront vers vous. Il faut l'espérer, ça aussi.
Je l'espère. Mm-hmm. Je l'espère de tout mon cœur.
Vous dites qu'aujourd'hui, vous avez du travail. Comment ça va aujourd'hui? Alors, je sais que cette blessure de ne pas avoir ses enfants, de ne pas les voir, c'est très dur, Nadège. Mais comment ça va pour vous, aujourd'hui?
Écoutez, ça va. Je fais un métier que j'adore et je m'épanouis dans mon travail et j'ai reconstruit ma vie. J'ai une vie stable et justement, j'ai pas choisi par hasard mon métier. Je suis auxiliaire de vie, donc voilà.
Vous aidez les autres.
Voilà. Mm-hmm.
Merci. Oui, Nadège, vous vouliez rajouter quelque chose.
La boucle est bouclée, je dirais. Je donne aux autres et je suis à l'écoute. J'essaie d'être le plus à l'écoute des gens. Bon, c'est dans d'autres circonstances. Mais c'est pas par hasard qu'on choisit ces métiers.
Vous étiez à Paris à l'époque, oui. Vous êtes dans les Vosges aujourd'hui.
Oui.
Il y a beaucoup de personnes dans la rue, vous les croisez aussi?
Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de misère cachée. Il y a beaucoup de misère cachée, des gens qui ne disent pas qu'ils sont en difficulté parce que les gens ont honte. C'est difficile d'admettre qu'on est en difficulté aussi. C'est difficile de le dire.
Et le jugement et le regard?
Oui. C'est ce qui fait mal, le jugement et le regard des autres. Vous savez, moi je me souviens, quand j'étais SDF, des fois je sentais pas très bon parce que j'allais me laver à Gare de Lyon ou dans les gares, il y avait des douches. Donc on payait la douche pour se laver. Et des fois j'entendais des réflexions disant que je sentais mauvais. Et un jour je me souviens, je me suis retournée, j'ai dit à deux dames, j'ai dit c'est moi qui sens mauvais madame. Je dors dehors, je ne peux pas prendre de douche comme je veux. Si j'ai pas d'argent, je peux pas aller prendre de douche.
Elles ont compris?
Et elles se sont excusées et elles se sont senties mal à l'aise. Et je leur ai dit, vous ne sentez pas mal à l'aise, mais je vous explique pourquoi je sens mauvais.
C'est important d'expliquer tout ça, Nadège, comme vous le faites aussi, Jean-Marie Rougold, dans votre livre. Nadège, on vous embrasse très fort. Merci d'être venu témoigner ce soir. Et ne lâchez pas avec vos enfants. Écrivez-leur. Un jour, il y aura certainement une réponse, je suis sûre. À bientôt, Nadège. On vous embrasse très fort.
Aussi.
Au revoir. La rue, c'est le sujet dont se dit tout ce soir jusqu'à 22h avec vos témoignages au 0810 055 056. Vous avez connu ça, vous le connaissez encore aujourd'hui. Venez nous rejoindre et venez en parler avec nos grands témoins. On en a deux ce soir, Jean-Marie Rougold et Jean-Louis Debré qui co-signent Je tape la manche aux éditions Le Livre de Poche.
On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez sur France Bleu jusqu'à 22h, vous avez la parole et on se dit tout. On parle ce soir de la rue, comment dormir, manger, se laver, prendre soin de ses affaires quand on est dans la rue, comment ne pas baisser les bras aussi. Ce soir, on aborde un sujet délicat, on le sait bien, souvent tabou aussi parce que personne ne veut voir et surtout pas les passants dans la rue pour la plupart. Venez nous rejoindre au 0810 055 056, vous qui avez connu la rue ou qui avez failli vous retrouver à la rue. Comment ça arrive? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Et comment en sortir surtout? On vous attend avec ce soir non pas un grand témoin, mais deux, Jean-Marie Rougold et Jean-Louis Debré, qui signent ensemble Je tape la manche aux éditions Le Livre de Poche.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Qu'est-ce qu'on fait toute la journée quand on est dans la rue? À quoi on pense? Comment on fait pour supporter le regard des autres quand il y a un regard, mais plus souvent leur indifférence? Ce soir, on parle de la rue, de ce qui a déclenché cette descente aux enfers. Parfois, il suffit de pas grand-chose, on l'a entendu, pour que ça vacille. Plus d'emploi, plus de revenus, des dettes, une expulsion, et puis la rue. 0810 055 056, racontez-nous votre histoire, on vous attend vraiment pour comprendre comment ça arrive et pour faire comprendre surtout qu'il y a des hommes et des femmes derrière les trois lettres SDF. C'est Jean-Marie Rougol et Jean-Louis Debré qui sont nos grands témoins. Ce soir, ils co-signent Je tape la manche aux éditions du Livre de Poche et nous accueillons maintenant Cédric à Dijon. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Ça vous a touché le début de cette émission? Vous nous avez rejoint à quel moment Cédric?
Bah, à quel moment? Ça fait à peu près une heure que j'ai un appartement, je viens d'avoir une radio en fait, je l'ai branché, je vous ai entendu en fait, et ça fait 4 ans que je suis à la rue, et là aujourd'hui je viens d'avoir mon appartement.
Alors déjà ça tombe super bien que ce soit aujourd'hui, on le fête un petit peu ensemble quelque part Cédric, après ces 4 années de galère.
Quelques années de galère, puis on le fête softement, sans alcool, sans drogue, sans rien du tout. Pour pouvoir rebondir en fait dans la vie en fait, et puis continuer en fait maintenant à construire quelque chose en fait.
Comment vous êtes retrouvé à la rue? Qu'est-ce qui a été le déclencheur en fait?
Le déclencheur en fait, ça a été mon employeur.
Un licenciement?
Rapidement ma carrière, ça a été en fait 8 ans engagé militaire en fait. Après j'ai bossé pour des grosses boîtes en fait en France, je vais pas citer des noms en fait, de bâtiments. Des grosses boîtes de bâtiments en fait, et je me suis fait en fait exclure de ces boîtes en fait parce que j'avais pas de, en fait de logement et je dormais en fait dans les bungalows en fait. Donc je nuisais à l'image de la société.
Et là, c'est-à-dire pas de logement mais plus de boulot non plus.
Plus de boulot, plus de logement, plus de copines, plus de permis non plus. Donc à la finale, on s'est retrouvé à la rue pendant 4 ans à faire toute la France et à faire les saisons à droite à gauche, même en Espagne, à faire un peu tout pour se débrouiller en fait.
Vous touchez votre indemnité de licenciement?
Non, pas du tout, non.
Pourquoi?
Ça faut demander en fait. Au bout de, j'ai 21 ans de cotisation de travail en CDI. Et je suis à l'ASS, en fait, et je touche 16,25 € par jour, donc ça veut dire à peu près 500 € par mois.
Et vous êtes allé voir une assistante sociale?
Bien sûr, ouais, ça fait des années et des années que je la vois. Et bien, c'est très dur à expliquer, en fait, parce que les assistantes sociales, vous pouvez en voir des dizaines et des dizaines, et sans rien avoir, et là, au bout de 4 ans, en fait, là, je viens d'avoir quelque chose, en fait.
D'être tombé sur la bonne personne? Qui vous a aidé?
Pendant
ces 4 ans, qu'est-ce qui était le plus dur, Cédric, dans la rue?
Le plus dur, en fait, c'est que j'ai un enfant qui a 12 ans. Donc je m'entends très bien avec sa maman. Sauf que je me suis toujours autorisé de l'avoir tous les 15 jours, même en étant à la rue. Donc le plus dur, c'était d'avoir un endroit pour l'accueillir tous les 15 jours, tous les week-ends.
Mais vous avez réussi à tenir ce lien, à garder ce lien avec votre enfant?
Oui, toujours.
Qu'est-ce qu'on lui dit, son petit garçon, sa petite fille? Je sais pas, c'est un petit garçon ou une petite fille que vous avez?
Un petit garçon qui s'appelle Baptiste.
Qu'est-ce qu'on lui dit, ce petit garçon? Comment on lui explique les choses aussi, la dure réalité que vous étiez en train de vivre à cette époque-là?
Ben, on lui explique juste la vérité comme elle est. Hein. On lui explique que c'est comme ça et c'est pas autrement. On peut pas mentir à un enfant, donc à vivre dans les camions, ou vivre à la ZAD, moi comme j'y vais, à Notre-Dame-des-Landes. À défendre des projets ou à essayer de vivre autrement par rapport à essayer de faire de l'électricité, à essayer de faire de la culture, à essayer de se nourrir autrement par toute cette société de consommation en fait.
Vous avez dit à un moment donné, sans drogue, sans alcool, ça vous l'avez connu aussi à un moment donné?
Je l'ai connu grave, j'ai connu pendant 9 ans en fait. Donc là, ça fait à peu près 12 mois que je suis sevré. Donc voilà.
C'est bien d'en parler aussi, Jean-Marie Rougol, de l'alcool, de la drogue. Parfois, il faut tenir et c'est une façon de tenir, malheureusement, dans la rue.
Oui, mais bon, quand des fois, avec les copains... Bon, la drogue, moi, j'ai jamais touché ça parce que ça m'intéressait pas. Mais bon, c'est vrai que des fois, on se prenait des bonnes cuites...
C'est quoi, c'est on a envie d'oublier, on a envie
bah,
aussi
t'es entraîné, de... t'es entraîné. Or des fois, bah t'as toujours les plus anciens, allez, bois une bière, et ça vient comme ça. Et il faut pas rentrer dans l'engrenage, parce que là après c'est fini, bah après tu viens alcoolique.
Et puis ça coûte cher aussi.
Puis voilà. Moi j'ai des amis qui sont dans la rue, des gens dans la rue, bon, je les fréquente pas, mais dès qu'ils gagnaient un peu de sous, bah, ça va acheter la canette de bière, et puis voilà, puis ils sont à zéro toujours le lendemain.
Et puis ça crée de l'agressivité chez certains.
L'agressivité, oui, de l'agressivité. Puis bon, à un moment, déjà, ça te prend la tête déjà de dormir dans la galère. Si c'est pour te prendre la tête avec d'autres gars, non, c'est pas la peine.
Tout à l'heure, Nadège nous parlait des vols aussi. On en parle beaucoup des vols dans, dans votre.
Des vols, oui. Moi, j'ai été volé plusieurs fois mes baskets.
C'est-à-dire que vous dormez, vous êtes dans la rue, vous dormez, vous faites piquer vos affaires.
Ben, le premier soir, on dort d'un œil. Le deuxième et le troisième, on est tellement fatigué. Bon, on s'en aperçoit pas, le lendemain on se réveille, plus de basket. Moi ça m'est arrivé, mais des journées de manche, me faire voler, parce que moi, j'étais fatigué, plus rien, plus de papier. J'ai vécu un moment longtemps dans la rue, sans papier d'identité.
Mmh. Avec je me souviens d'une histoire qu'il m'a racontée, il était très très froid à Paris. Il était dans sous le porche d'une maison près des Champs-Élysées. C'est tellement épuisé qu'il s'endort, il fait moins 2, moins 3. Et quand il se réveille, il n'a plus de chaussures. Vous voyez ce que c'est de moins 3 et être pieds nus sur le trottoir. Et là, il y a un engrenage, parce que il faut trouver les chaussures. Alors que quand on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on fait? On les vole.
De votre rencontre, Jean-Louis Debré, avec Jean-Marie Rougol, est née cette histoire, enfin l'histoire de Jean-Marie, le livre est né, mais on sent qu'il y a quand même toujours cette complicité, vous avez même un aspect presque protecteur envers lui, je vous entendais tout à l'heure, genre, attention la cigarette, vas-y doucement.
Oui, non, parce que sortir de la rue, c'est un combat, et il faut, pour gagner ce combat, être entouré de personnes qui lui disent un certain nombre de vérités. Et heureusement, d'ailleurs, c'est pour ça que ce livre a été fait, c'est que Jean-Marie ne buvait pas, car il y a un certain nombre de ses copains que j'ai vus, dont je ne pourrais pas écrire avec eux, dans la mesure où l'alcool les a tellement minés depuis des années et des années que leur discours est totalement incohérent. Le discours de Jean-Marie est très cohérent. Et puis c'est la cigarette. Et donc, il m'a appris beaucoup plus que je ne lui ai appris. Il m'a fait découvrir la rue. Et il m'a fait surtout découvrir que ceux qui ne sont pas dans la rue ne doivent pas regarder ceux qui sont dans la rue avec mépris. Parce que ils comprennent parfaitement qu'on ne puisse pas donner à tout le monde. Mais c'est pas la peine de les juger. Ouais. Et Jean-Marie s'en est sorti aussi, parce que même dans la difficulté, même dans la rue, il n'a jamais renoncé. Jamais renoncé, parce qu'il est intelligent, à trouver des endroits où on gagnait plus. Il n'a jamais renoncé à être gentil, à faire rire. Et j'expliquais il y a quelques jours à un SDF que je voyais, qui était venu me voir et il m'a demandé des pièces agressives. Et je lui ai dit, je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami qui était dans la rue. Il est en train de s'en sortir. Parce qu'il m'a toujours expliqué que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, si vous lui demandez de manière agressive, il ne vous donnera pas. Et donc, ne soyez pas agressif. Je crois que c'est très important. Mais c'est là où on retrouve le problème de l'alcool. L'alcool est en train de ravage un certain nombre de SDF qui ne voient plus les limites de leur expression. Donc voilà, oui, il faut faire du coup humain. Alors il y a des associations extraordinaires dans les grandes villes, pas uniquement à Paris. Les Restos du Cœur, le SAMU social,
les Sentinelles,
la protection civile, la protection aussi.
Admirable. Il faut aussi une sorte, ce que je disais toujours, de tuteur qui puisse De temps en temps, moi, je me suis plusieurs fois engueulé avec Jean-Marie. Parce qu'il a un caractère de cochon.
Il faut une personne, il faut quelqu'un, voilà, il faut... Ouais, le mot tuteur, j'aime bien, c'est pas mal, effectivement. Cédric, ça a été votre cousine qui vous a hébergé, qui vous a donné un coup de main. Il y a toujours des gens, que ce soit des associations, la famille, l'entourage, ou un copain de la rue aussi. Cédric, merci de nous avoir appelé, d'avoir été avec nous sur France Bleu, et jusqu'à 22h, on continue de parler de la rue, de votre quotidien, vous qui l'avez vécu, ou qui le vivez peut-être encore en ce moment même, en nous écoutant. 0810 055 056, je dis en nous vous écoutant, parce que on sait aussi l'importance, et on en avait parlé durant les fêtes de Noël, de la radio, du contact aussi avec le monde extérieur quand on est dans la rue. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent le soir et qui sont fidèles à On se dit tout. Bah justement, venez nous rejoindre, venez en parler. Si vous avez un téléphone portable, vous passez un petit coup de filet, on vous rappelle juste après pour pouvoir échanger sur ce thème jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, On se dit tout avec Vanessa Lambert.
La rue, c'est le sujet dont se dit tout ce soir. On parle beaucoup de précarité. Il n'y a jamais eu autant de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté et de plus en plus n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est souvent le début de la rue. Et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas d'argent, pas d'endroit où dormir, pas de quoi manger? Comment on s'organise? Qui nous aide? Ce soir, on a décidé de parler de la réalité du terrain et de la rue avec de plus en plus de SDF. Leur nombre a doublé en 10 ans. On voit aussi des femmes et de plus en plus de jeunes. C'est votre histoire à vous aussi, vous avez connu ça, venez nous rejoindre pour en parler jusqu'à 22h au 0810 055 056 et avec nos deux grands témoins Jean-Marie Rougol et Jean-Louis Debré qui signent ensemble Je tape la manche aux éditions du Livre de Poche. Nous partons dans le Var chez Catherine. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
Ça a été votre histoire, c'était il y a longtemps, il y a 20 ans, mais on n'oublie pas, vous étiez toute jeune à l'époque, vous aviez 16 ans et demi.
Et oui, d'abord la première misère, c'est la misère affective, parce que bon, on a une maman, puis on se retrouve à la porte, et puis on a un frère et une sœur, et il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de réaction, donc j'ai dû partir en plein novembre, le mois de mon anniversaire, donc c'était doublement difficile. Et en plus, j'ai un problème de santé, parce que je fais des pertes de connaissances qui sont inexpliquées. Bon, qui m'arrive de temps en temps quand on m'a dit c'est dû au stress, c'est. Mais enfin bon, malgré ça, ben il a fallu que je quitte l'appartement de ma maman, que mes parents étaient divorcés. Et en fait, suite à une petite accroche avec ma mère, et ben il a fallu partir. Et j'ai bien regardé derrière moi pendant le temps que je marchais jusqu'à la gare pour voir si on allait quand même revenir me retrouver. Et par chance, heureusement, je ne suis pas tombée, malgré le stress, je ne suis pas tombée dans les... Je n'ai pas perdu connaissance. Et donc, donc, en voulant prendre le train, j'ai rencontré quelqu'un. Je voulais partir en Italie parce que j'avais de la famille. De la famille en France, j'en avais pas vraiment parce que mon père n'a pas de famille. Et ma maman, elle a été un peu oubliée de la sienne, malgré qu'elle a une sœur et un frère, mais que...
C'est-à-dire que vous étiez.
Donc j'étais bien.
Pour comprendre, Catherine, vous vouliez partir en Italie. Ça se fait pas comme ça de partir en Italie. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvée à la rue à un moment.
Oui.
Combien de temps vous êtes restée?
À la rue. Quand il a fallu que je parte du domicile. Et.
Comment ça se passe le premier soir? Vous avez 16 ans et demi. Vous savez pas où dormir. Comment vous vous êtes débrouillée?
Ben je me suis dit en prenant le train, je serais déjà. Un toit roulant sur la tête, mais bon, je savais que quand même en Italie j'allais pouvoir, j'allais avoir de la famille, un peu plus que celle que j'ai en France, mais que je n'ai pas vraiment, puisque les histoires de famille, la première misère, c'est comme je dis, c'est la misère affective des siens. Voilà, surtout que j'ai un problème de santé qui.
Vous êtes resté combien de temps dans la rue, Catherine?
Ben en fait, par chance, j'ai pas vraiment connu la rue. J'ai failli la connaître. Et bon, à plusieurs reprises, des foyers de jeunes filles, foyers de jeunes filles. Et puis bon, après, j'ai rencontré quelqu'un en prenant le train et qui avait l'âge de mon papa et avec qui j'ai eu une histoire sans que vraiment il me cherche, qu'il soit, comment dire, qu'il y ait abus. Voilà, une histoire commencée comme ça.
Quelqu'un qui vous a tendu la main. Aussi.
Voilà.
Jean-Marie, ouais. Vous voulez.
Je voulais vous dire quelque chose, mais normalement, à 16 ans et demi, vous êtes mineur. Vous n'êtes pas majeur. Normalement,
ben
c'est
oui,
les parents
bon.
Qui sont responsables.
Donc, il fallait partir,
et ils n'ont pas fait d'avis de recherche et il n'y a rien eu.
Ben voilà, donc suite
parce que normalement, vous avez 16 ans et demi, vous n'avez pas l'âge d'adulte, vous êtes en adolescente. Mais... normalement, c'est à 18 ans.
Ouais,
mais là, normalement, vous auriez pu même vous retourner contre vos parents, déposer plainte.
Ouais, mais ça, on ne sait pas, on sait pas. Et puis, je pensais, on ne sait pas à cet âge-là. On se dit, bon, à la maison, avec maman, c'est plus possible, c'est plus douloureux qu'autre chose. Si j'étais pas contente de la politique de la maison, je me prenais des douches froides, me coupais l'eau chaude, des choses comme ça. Donc, elle m'a dit si j'étais pas contente de voilà.
Mais vous étiez alors le martyr de la maison. Alors, par rapport à vos, par rapport à votre frère et sœur.
Ah oui. Disons, j'aime pas dire martyr parce qu'il y a tellement d'horreurs sur la planète. Je suis pas la plus martyre. Mais enfin, bon, surtout que bon, la pire des choses, c'est quand je fais des pertes de connaissances qui sont comme, pour moi, comme des petites morts.
Ouais, parce que vous avez eu vraiment de la chance, vous auriez pu mal tomber, hein, surtout à l'âge de 16 ans et demi.
Vous en voyez beaucoup, vous en avez vu beaucoup, Jean-Marie Rougol, des jeunes comme Catherine, 16 ans, 16 ans et demi, 20 ans.
16 ans, on sait pas quoi dire s'ils ont 16 ans, mais on.
On devrait y avoir de plus en plus de jeunes.
Ouais, de plus en plus.
Des jeunes.
Ouais, moi j'ai commencé, on n'était pas beaucoup hein, dans la rue. Hein. Maintenant, on en voit dans tous les coins de rue. Mm. Vous prenez le métro, il y en a partout. Et des jeunes, beaucoup de jeunes.
Mais,
aussi des personnes âgées.
Oui.
Des personnes d'une soixantaine d'années qui se retrouvent dans la rue.
Toutes petites retraites, qui ne peuvent plus payer leur loyer. Oui. L'histoire de Catherine, elle fait quand même écho à la vôtre. Un foyer où on n'est pas bien. Catherine nous disait, c'était mieux pour moi de partir. Je ne pouvais plus supporter ça.
Quand même, c'est aussi votre histoire, parents, ça. Oui, mais moi, je pense que ses parents, que maintenant qu'elle a sa vie tranquille, qu'elle s'occupe plus même de les rechercher, ça sert à rien. Parce que quand elle avait 16 ans et demi, ils l'ont laissé partir. Ils ont jamais fait un avis de recherche.
Ils ont fait des efforts pour vous retrouver, vos parents, vos frères et sœurs.
Si je peux me permettre de dire quelque chose, mes parents étaient divorcés, donc je vivais avec ma maman et puis mon frère, ma sœur.
Mmh.
Et ma mère, voyant que j'allais pas revenir. Elle a contacté mon père en disant que j'avais fait une fugue. Mais bon, j'ai pas fait une fugue. Il a fallu que je parte parce que, bon, on s'était douloureusement accrochés. Et puis bon, je pouvais prendre de douches chaudes en novembre. Ça, et c'était que pour moi, quoi. Alors, et puis bon, je me disais, en plus, à un moment, je l'aime, elle est partie, malheureusement, elle est décédée d'un cancer. Mais bon, il y a des suites qui sont... On dirait que la roue tourne toujours dans la boue de la même façon pour vous voyez, ma maman aussi, elle a été un peu rejetée de sa famille. Et puis, on dit que la roue tourne, et moi, pour moi, la roue tourne du mauvais sens, parce que bien que j'ai un frère et une sœur et qu'il y a eu des choses au niveau de l'héritage de ma maman décédée en 2013, ils m'ont un peu...
Ils vous ont mis de côté.
Dérobé de l'héritage, hein, malgré que je suis en ce moment... j'ai des petits contrats, mais je suis souvent sans emploi. Et j'ai aussi des enfants, j'ai deux enfants, et qui ont besoin d'un avenir aussi, et puis d'une famille qui en soit une.
C'est voilà. Votre famille maintenant, forcément. C'est la vôtre, contrairement à celle que vous aviez au départ. On l'entend quand même souvent, et on le voit dans votre livre, Jean-Marie, qu'il y a souvent des accidents qui commencent très tôt, des accidents de la vie, des enfances pas faciles, ça a été le cas pour vous. C'était le cas de vos copains dans la rue aussi, ou c'est pas, il n'y a pas de profil type, évidemment.
Moi, j'ai connu un gars qui est resté longtemps avec moi. Moi, je devais avoir 30 ans. Et c'était, on était sur la rue de Belleville et il y avait un petit jeune qui arrivait de Picardie. Je l'avais pris sous mon aile, je l'avais formé à faire la manche, tout ça, parce que ses parents l'avaient carrément jeté dehors.
Mmh.
Et il avait le genre de ses 18 ans. Prends ton sac et casse-toi.
Ouais. Catherine, merci de nous avoir appelé, merci d'être venue témoigner sur France Bleu. Jusqu'à 22h, on continue d'écouter vos témoignages, votre histoire dans la rue à vous aussi. 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Un jour, vous vous êtes retrouvée à la rue, ça peut aller très vite après un accident de la vie, rupture, perte d'emploi. La rue, ses difficultés mais aussi ses amitiés. On parle également ce soir du regard des autres. centre de la réinsertion. Et on vous attend pour en parler au 0810 055 056 avec Jean-Marie Rougol et Jean-Louis Debré qui signent ensemble Je tape la manche aux éditions du Livre de Poche. Et parfois, on n'est pas à la rue, mais c'est vraiment limite. On est à deux doigts de tomber. C'est le cas de Gérard qui nous appelle de région parisienne. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir Vanessa et bonsoir à vos, vos invités.
Bonsoir.
Ça a été limite pour vous, hein, Gérard.
Ouais, limite. Je dois dire que c'est toujours un petit peu ça, quoi. J'ai toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, je suis très content de passer à votre émission parce que déjà, ça me touche beaucoup. J'ai l'impression de revivre tout. J'ai eu l'occasion de subir une procédure d'expulsion il y a à peu près 5 ans de ça. Et on peut pas savoir à quel point c'est une procédure inhumaine, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut ressentir ce que pouvait sentir le peuple juif quand il y avait des rafles au petit matin, quoi. C'est-à-dire que maintenant, tous les matins, je suis réveillé à 6h du matin. Et puis, au quotidien, bon, j'ai eu l'occasion, comme ça, juste au dernier moment, par une personne intervenante qui me voyait faire les poubelles, de trouver un petit appartement à 20 mètres carrés au 6e sans ascenseur. Mais je galère, quoi, je galère, parce que bon, c'est 700 euros, j'essaie de les trouver, de les payer. J'ai un garde-meuble aussi à rajouter à ça. Et voilà, et au quotidien, bon, ben, j'écoutais vos auditeurs, toute la soirée, on s'aperçoit que on essaie de trouver de l'argent à tout prix, quoi. On essaie de trouver de l'argent à tout prix, c'est-à-dire que bon, ben, on sait qu'il faut payer son loyer, on sait qu'il faut se sortir de la galère. Alors, on fait les poubelles, on va manger dans les endroits où ils jettent de la nourriture. On s'aperçoit aussi que les gens, des fois, qui vous tendent la main, ben, ce sont même pas vos proches, ce sont plutôt des gens qui sont humains, même des gens de la rue, même des voyous. Il n'y a pas de règles. Des fois, il y a des voyous qui ont un cœur d'or et vous avez des nantis qui vous méprisent, quoi. Ils vous font ressentir la différence, quoi. Alors, je tenais à vous dire aussi que je suis très content de votre radio parce que, bon, bah, depuis que je suis dans cet appartement que je déteste, je vous écoute depuis le matin et ça me touche parce que, bon, bah, je me réveille avec Bill de Bruges. Le soir, je m'endors pratiquement avec vous et puis avec le monsieur qui fait l'émission après. Et c'est une compagnie et c'est important que vous fassiez ça ce soir parce que je pense que comme beaucoup d'auditeurs, ça va apporter beaucoup de chaleur humaine.
Merci déjà pour ça Gérard, de venir témoigner aussi. La solidarité dont parle Gérard, il nous dit c'est pas toujours ceux qui ont les plus de moyens qui nous aident.
Oui, c'est vrai. Moi, j'avais des gens qui venaient me voir une ou deux fois par mois, des employés qui touchent le SMIC, bah, qui me donnaient un ticket restaurant, qui venaient parler ou qui m'en ramenaient un café. Et souvent, ces gens-là, ils ont un grand cœur.
Gérard, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des aides? Est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous donnent un coup de main? On a beaucoup parlé avec Jean-Louis Debré des assistantes sociales, de leur rôle et de leur importance. Est-ce que vous avez du monde avec vous?
Bah, pas vraiment. Hein. Je vous dis, je vois une assistante sociale, mais bon, on vous fait miroiter, c'est un peu le miroir aux alouettes. Hein. On vous dit, bon, bah, faut entamer une procédure de loi d'allô. On vous dit, on vous fait remplir tout un tas de papiers. C'est toujours, je vous dis, vous êtes toujours sur la brèche. C'est-à-dire que les assistantes sociales, j'ai pas réellement l'impression. Bon, il faut tomber vraiment sur la bonne personne qui soit investie. Après, j'ai entendu des trucs qui sont effrayants, quoi. Hein, qu'il y avait des gens dans les appartements sociaux qui étaient propriétaires. Il y avait des gens qu'il fallait marcher avec une enveloppe. Moi, j'ai pas d'enveloppe. Et puis, de toute façon, je suis contre le principe. Même combien même j'en aurais une, quoi. Donc. C'est très dur. Hein. J'ai lu l'ouvrage d'une personne, une femme qui avait vécu dehors, et c'est pathétique parce que bon, quand on est une femme, on est justement au regard des hommes. Elle disait qu'elle était obligée de mettre 3 anoraks sur elle pour justement qu'on ne la voit pas, et elle a pu se reconstruire parce qu'elle faisait du théâtre et elle disait bien que les assistantes sociales, elle avait fait des sketchs là-dessus. c'est pas pour leur tirer dessus, mais elles ne sont pas toujours présentes là. Il faut vraiment tomber sur les bonnes qui soient investies. Quoi, et qui est du métier.
En même temps, il faut suivre aussi certaines règles, Gérard. C'est peut-être aussi compliqué. Il y a beaucoup de papiers à remplir. Il faut faire des démarches pour pouvoir avoir des aides aussi.
Oui, tout à fait.
On ne peut pas leur reprocher ça.
Non, bien sûr. Mais on les fait. Je les fais. Mais combien de gens, même je vois dans le métro, tous les jours au quotidien, qui font la manche, qui disent voilà, ben j'ai entamé le DALO, je suis inscrit.
C'est quoi le DALO?
Le DALO, c'est une procédure qui vous permet, de, au bout d'un certain temps, soi-disant de passer prioritaire et comme quoi vous pouvez attaquer l'État parce qu'on est censé devoir vous reloger. Je l'ai fait, j'ai rien eu du tout, quoi. Ça m'a pas évité l'expulsion.
Mais moi, je pense aussi, quand on parle des assistances sociales, vous savez, moi, je pense aussi au départ aussi, je dis les assistances sociales, mais à mon avis, ils doivent avoir tellement de cas comme nous. Mmh. À mon avis, c'est pas facile à, parce qu'ils font passer déjà prioritaire les femmes avec des enfants. Et nous, on est seuls, on passe après.
Jean-Louis Debré, vous vouliez réagir?
Ce que je trouve, c'est que un certain nombre de démarches administratives sont beaucoup trop compliquées. Ces gens sont seuls. Ils ne sont pas habitués à remplir des formulaires. Et donc, il faut beaucoup de patience. Et l'administration, avec ses règles, s'il manque une mention, leur renvoie, leur redemande de modifier, il faudra arriver à un système pour les gens en grande précarité de demande d'allocation extrêmement simple. Quand on demande fournir un extrait d'acte de naissance, il faut écrire à la mairie. Ou... Mmh. Tout ça, c'est très compliqué. Tout ça, c'est très compliqué.
Surtout quand il faut passer la journée à trouver de l'argent, on n'a pas forcément le temps de faire des démarches.
Et beaucoup vivent au jour le jour. Mmh. Et donc, ne laissons pas dire que les assistantes sociales ne sont pas à la hauteur. Je connais beaucoup d'assistantes sociales qui font remarquablement leur travail. Elles sont souvent débordées. Mais il y a aussi à revoir tous ces formulaires qu'on demande à remplir. C'est pas normal.
Non, on devrait pas avoir à justifier tout ça quand on est dans une grande précarité.
On peut pas justifier. Quand vous demandez, quand quelqu'un a travaillé, alors souvent en plus, ils ont travaillé au noir. On peut pas leur reprocher, il fallait qu'ils se nourrissent. Donc on leur demande des feuilles de paye, il y en a pas. Quand on leur demande, il faut que vous donniez une adresse. Eh ben, il faut connaître les démarches pour se faire domicilier. Tout ça, c'est compliqué.
Gérard, merci de nous avoir appelés. Tenez bon et n'hésitez pas à vous faire aider encore une fois et à changer peut-être d'intermédiaire de contact si ça colle pas, parce qu'il y a aussi une histoire de contact et de feeling. On prendra de vos nouvelles aussi, Gérard. On vous lâche pas, comme on le fait avec beaucoup d'auditeurs dans Se dit tout. Jusqu'à 22h, on continue d'en parler. On vous attend pour encore quelques minutes. Si vous aussi, vous avez connu la rue, rejoignez-nous au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
La rue, on en parle ce soir avec vous qui connaissez ça ou qui l'avez connu, avec Jean-Marie Rougol qui a vécu 20 ans dans la rue et qui signe avec Jean-Louis Debré Je tape la manche aux éditions Le Livre de Poche. Et Francky est avec nous dans les Alpes de Haute-Provence. Bonsoir Francky.
Bonsoir.
Je vous entendais chanter sur Florent Pagny en attendant.
Ah ben, muchas gracias, monsieur Florent Pagny.
Francky,
vous aurez pas ma liberté de penser.
Ouais, vous avez 58 ans, vous êtes né dans la rue, vous dites, et vous y êtes encore aujourd'hui.
Je suis pas à la rue, au sens propre du terme, mais j'habite un logement où même les rats, ils viennent pas tellement, c'est insalubre.
Ah ouais.
Ça fait 2 ans que je suis en bataille avec mon propriétaire. J'ai fait plein d'associations, l'OPH, le ci, le là. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas normal. Et dans les conditions où je vis depuis 2 ans, ben, y a rien qui bouge. Moi, je voulais juste apporter mon témoignage parce que j'ai vécu ça. Malheureusement, j'ai pas eu le choix. Je suis tombé moi aussi dans le fond du gouffre. J'ai connu la dope, l'alcool, enfin toutes ces saloperies qui vous mettent au fond du trou. J'ai eu la chance de relever un peu la tête par rapport à la famille. C'était pas mes parents, mais c'était de la famille proche. Et puis bon, un coup de pied au cul, on va dire, j'ai relevé la tête. Et puis après, j'ai réussi à fonder une famille, à avoir des enfants. Puis là maintenant, depuis 2 ans, je suis dans une situation que j'envie à personne.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la rue, mais c'est tout aussi compliqué, voire plus compliqué même.
Oh, c'est plus compliqué, j'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité, j'ai pas de chauffage, voilà. Dès qu'il peut 4 gouttes, je suis obligé de mettre des bassines partout parce que ça fuse partout. Et mon propriétaire me répond, écoutez, si vous n'êtes pas content, vous changez de logement.
Vous payez combien, si c'est pas indiscret, Francky?
Pardon?
Vous payez combien par mois?
360 euros, donc 30 euros compris pour l'électricité.
Et combien de mètres carrés?
Pardon?
Combien de mètres carrés?
36 mètres carrés en comptant les rebords de fenêtres.
Ah ouais, ok.
Ouais, je sais, ça fait rire, mais bon, moi, ça me fait pas rire.
Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez un travail, Francky, vous avez des revenus?
Non, j'ai eu justement un accident de travail, donc je suis un travailleur handicapé, j'ai une broche, deux broches dans la cheville, j'ai un bras, le bras gauche, je peux quasiment plus me servir, et bon, bah, 58 ans, même considéré, comme on dit, comme travailleur handicapé, senior et patin couffin, les emplois pour les travailleurs handicapés, oui, c'est pour moi, c'est du bilan, quoi.
Quel souvenir vous gardez, Francky, puisque le thème de ce soir, c'est la rue, quel souvenir vous en gardez, le bon et le moins bon souvenir?
Le bon souvenir?
Les copains, on parle beaucoup d'amitié aussi, de solidarité. Est-ce que ça, vous avez connu aussi?
Je vous parle de solidarité, parce qu'à l'époque, j'étais à Marseille, donc il y a quand même bien des années en arrière, j'ai 5 ans.
Ah, on a perdu Francky. Communication a été coupée, malheureusement. On voit que c'est pas si simple que ça, Jean-Marie Rougol, de sortir de la rue, de repartir sur une vie normale, entre guillemets, après.
C'est très très dur, parce que j'ai eu plusieurs expériences comme ça. J'avais trouvé des fois des boulots en intérim, mais et les employeurs se sont aperçus que j'avais pas d'adresse, et ils me font partir.
C'est-à-dire qu'on essaye de s'en sortir, mais il y a toujours des barrières.
Il faut une adresse.
Ouais,
il faut une adresse. Un hôtel n'est pas une adresse. C'est précaire. Le jour où tu n'as pas d'argent pour payer, ben, au revoir monsieur. Moi, j'ai des copains qui n'arrivaient plus à payer une chambre d'hôtel et ils lui ont gardé ses affaires, hein, jusqu'à qu'il rembourse les chambres qu'il doit.
L'adresse, ça paraît tout bête pour les gens qui nous écoutent peut-être, mais c'est capital.
C'est une adresse. Moi, c'est arrivé, c'était comme ça aussi. J'étais au drugstore. Il y a un gars qui vient, je lui dis, je vous garde votre voiture. Il dit, ouais, moi je suis un patron, je cherche des employés. Puis, d'ailleurs, vous êtes des feignants, truc comme ça. Je lui dis, moi, il n'y a pas de problème. J'avais ma carte d'identité, ma carte de sécu. Alors, je lui dis, moi, je commence quand? Et le gars...
Plus personne.
Plus rien. Et moi, je viendrai vous voir dans 2-3 jours. Je dis, au lieu de raconter des conneries, c'est mieux vous casser.
Jean-Marie Rougol est avec nous ce soir sur France Bleu pour encore quelques minutes. Eh ben on va malheureusement conclure. Bah oui, c'est l'heure. J'étais encore en partie en train de discuter, mais malheureusement c'est la fin de l'émission. On va vous remercier tous les deux, Jean-Marie Rougol et Jean-Louis Debré. Quel lien vous avez aujourd'hui, Jean-Louis Debré, avec Jean-Marie Rougol? Il y a bien sûr la télé, la radio, mais quand il n'y a pas d'émission, nouvelles.
Ah oui, je l'appelle au téléphone. Je l'incite à travailler, à arrêter de fumer. Je suis un peu son tuteur.
Ouais.
Je me considère comme son tuteur.
Ça a changé
votre... Et puis je l'aime beaucoup.
Ouais, il est attachant aussi. Hein.
Ouais.
Ça a changé le regard aussi de votre entourage, de vos proches. Vous en avez parlé forcément de cette rencontre.
Oui, parce que je parle sous contrôle. Lorsque j'étais au Conseil constitutionnel, l'ensemble du personnel du Conseil constitutionnel a été exceptionnel. Et vous voyez, ce matin, je passais près du Conseil. Et des gens qui sont sortis me disent comment vont. Je croyais qu'ils allaient me demander mes nouvelles. Non, comment va Jean-Marie?
Michel.
Très bien. Michel, etc.
Ouais,
oui, il y a eu une espèce de solidarité. Alors au début, quand il est arrivé pour la première fois au Conseil, j'étais un peu inquiet. Parce qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas habitués. Et puis ça s'est très bien passé. Il était chez lui. C'est plutôt moi qui lui demandais de venir au Conseil.
Jean-Marie Rougol, comment ça va aujourd'hui?
Ça va. Maintenant, j'ai un toit depuis le mois de mai. Voilà, bien après, bon, il faudra que je me remette au travail.
Oui.
Ça, c'est notre grand débat.
Ouais. Voilà. Et puis bon, moi, je dis, j'ai de la chance d'avoir rencontré M. Debré, parce qu'il m'a relancé ma vie.
Il faut bien savoir que la notion de temps n'est pas la même
dans la rue qu'autre
part. Et donc, ce que j'ai appris avec Jean-Marie, c'est qu'il ne faut pas le brusquer. Je me souviens quand il y avait ce livre... quand je brusquais, il ne voyait plus pendant 8-10 jours. Donc il faut être très attentif à leurs problèmes.
Jean-Marie Rougol, Jean-Louis Debré, merci vraiment d'avoir
été là tous les deux.
Je voulais
dire un petit truc, remercie aussi les associations.
Oui, on l'a dit tout à l'heure, mais il y en a encore beaucoup à remercier.
Ils ont fait beaucoup de choses aussi, on est content de les voir.
Et on rappelle le titre du livre parce que c'est les droits d'auteur pour vous.
Je tape la manche, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Merci à tous les deux et bonne fin de soirée. On se dit tout revient demain à partir de 20h sur France Bleu.